Bonjour, frères et sœurs. Ceci est une prédication de Henk Van Pagé, que nous avons intitulée « La gloire du Père ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un texte de l'Évangile de Jean, au chapitre 17, versets 22 et 23. Il s'agit d'une partie de la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière que Jésus dit à son Père juste avant de souffrir et de mourir. Après cette prière, Jésus sera arrêté, condamné, flagellé et crucifié. Et dans sa prière sacerdotale, Jésus prie spécialement pour ses disciples, parce qu'il sait que ses disciples vont continuer l'œuvre qu'il a commencée. Jésus conclut sa prière par ces mots. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Je veux surtout m'attarder sur cette expression spéciale et fascinante de Jésus. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Jésus leur donne la gloire qu'il a reçue du Père. C'est extraordinaire. Il est bien évident que Jésus a reçu la gloire de Dieu. Elle lui avait d'ailleurs déjà été promise dans Ésaïe au chapitre 60, verset 2. « Sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » 13 fois dans l'Ancien Testament, on parle de la gloire de l'Éternel, dont 9 fois dans Ésaïe. Et plus Jésus aime, plus Jésus obéit au Père jusqu'à la fin, plus il reçoit la gloire de Dieu. Dans le verset 22 de notre texte, Jésus témoigne de cette gloire que le Père lui a donnée. Nous chantons dans nos cantiques « il est élevé si haut ». Mais après le culte, nous continuons notre vie quotidienne comme avant. Il y a plus que cela. Écoutez attentivement ce que Jésus dit de nous. Non seulement Jésus remercie son Père pour la gloire qu'il a reçue, mais il prie que nous la recevions aussi, car il veut nous transmettre cette gloire. Jésus l'a proclamée sur ses disciples, donc aussi sur nous. La gloire que tu m'as donnée, je la leur donne aussi. Vous êtes-vous déjà demandé quelle sorte de chrétien vous êtes? Ou bien, quelle sorte de chrétien vous désirez être? Que pensez-vous de vous-même? À quoi peut-on reconnaître que vous êtes un disciple de Christ? Chaque forme de chrétienté a ses propres caractéristiques. Je veux dire, qu'autant d'églises et autant de communautés ont leur propre identité. Elles ont chacune leur propre culture, leur propre façon d'exprimer leur foi en Dieu. Lorsque je regarde à la télévision un culte dans l'église orthodoxe russe, je vois une liturgie très étendue, imposante. Je vois de beaux habits et couvre-chefs. Je vois des icônes recouvertes d'or fin, de beaux chants liturgiques, beaucoup d'apparat. C'est à cela que l'on reconnaît l'Église orthodoxe russe. Tandis que les églises calvinistes mettent plutôt l'accent sur la parole de Dieu. On y parle de prédestination, de péché originel, de grâce. le strict repos du dimanche et les vêtements sobres sont aussi une caractéristique de ces chrétiens-là. Et puis, il y a les églises libérales, modernes. Elles s'occupent davantage du prochain, d'œuvres de développement, d'aide aux réfugiés, etc. C'est la tolérance qui les caractérise. À côté de cela, il y a des églises qui sont très légalistes. Elles trouvent très important de suivre les préceptes du Seigneur strictement. Et à cause de cela, elles s'isolent souvent de la société. Comme dernier exemple, je parlerai des églises et des mouvements qui sont fortement dirigés sur la présence et l'action de l'Esprit-Saint. On y parle volontiers en langue. On s'occupe de prophéties et de guérisons. C'est leur culture. Comprenez-moi bien, je ne veux pas prononcer de jugement sur tous ces différents groupes. D'ailleurs, Jésus nous en avertit dans Luc chapitre 6, verset 37. Ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Il est bien plus important de se demander quelle sorte de chrétien suis-je? Quelle est ma culture spirituelle personnelle? À quoi peut-on me reconnaître en tant que disciple de Christ? Où est-ce que je mets l'accent? Nous venons de voir que, comme chaque peuple dans ce monde a sa propre culture et sa propre façon de célébrer sa religion, il y a aussi beaucoup de différences à l'intérieur de la chrétienté. Pourtant, Jésus a prié que tous soient un. La gloire que tu m'as donnée, je la leur donne, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. De quoi est faite cette unité? Chers frères et sœurs, je crois que chaque chrétien a la culture du milieu dans lequel il a grandi, et également pour ce qui concerne sa religion. Mais en même temps, il fait aussi partie du royaume de Dieu. Et le grand secret, c'est que le royaume de Dieu est le même partout dans le monde. Où que vous vous trouviez dans ce monde, combien différentes puissent être vos éducations et vos coutumes, le royaume de Dieu est partout le même. Parce que ce n'est pas un royaume terrestre. Ce royaume est un royaume spirituel, céleste. Jean-Baptiste prêcha, « Convertissez-vous parce que le royaume des cieux est proche. » Comme nous lisons dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Et Jésus dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Comme nous lisons dans Jean 18, verset 36. Quelles sont donc les caractéristiques universelles du royaume de Dieu? Dans Romains 14, verset 17, nous le lisons. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quelle doit être l'attitude de celui qui fait partie de ce royaume? Se préoccupera-t-il de liturgie, d'habits sacerdotaux, de dogmes, de lois, de règles? Non. Car dans le royaume de Dieu, on se préoccupera de quelqu'un, c'est-à-dire de la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et on ne se préoccupera pas seulement de ce qu'il veut nous apprendre, mais aussi de ce qu'il veut nous donner. Jésus est notre guide et notre exemple. Notre force est entièrement en lui. Et Jésus veut faire de chacun de nous son disciple, et des autres aussi, à travers nous. La culture du royaume de Dieu est partout la même, parce que c'est une culture spirituelle qui est tout à fait orienté sur Jésus-Christ. Nous sommes dépendants de lui. Il est notre centre d'intérêt, car il a dit de lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous pouvez lire ceci dans Jean 15, verset 5. Ce qui nous rend un, c'est notre orientation sur le Fils, et par lui, sur le Père. Jésus peut tout nous donner, notre foi, notre amour, notre place dans son Église, notre ministère, notre capacité de servir Dieu. Et le plus beau cadeau qu'il nous donne, c'est notre destinée. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, il est écrit « Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » On peut dire que la culture du royaume de Dieu, c'est celle qui nous rend semblables à l'image de Jésus-Christ. Dans Jean 14, verset 21, Jésus nous promet « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Eh bien, c'est ce que Jésus fait maintenant au moyen de cette parole. Jésus n'est pas une figure historique, statique. Non, Jésus est vivant aujourd'hui et il est dynamique. Il veut se manifester à nous. Jésus se manifeste quand il nous fait voir ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Quand il nous montre combien grande est l'œuvre de la rédemption au Golgotha. Vous devez savoir que par sa résurrection, les ténèbres et la mort sont des ennemis vaincus. Et nous pouvons vivre dans la lumière. C'est la base de notre salut. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Après avoir été sauvés, nous voulons suivre Jésus. 1 Pierre chapitre 2 verset 21 dit « C'est aussi à cela que vous avez été appelés. » Christ a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous voulons suivre Jésus. Nous ne sommes pas seulement reconnaissants d'avoir été sauvés par lui, mais nous sommes aussi appelés à suivre son exemple. Et cela est pour maintenant, c'est pratique, c'est dynamique. Pierre continue, « Lui qui, insulté, ne rendait pas l'insulte, et souffrant, ne faisait pas de menaces. » Jésus a connu la souffrance et les menaces. Les mensonges et les insultes lui faisaient mal. Et que faisait-il alors ? Dans le verset 23, nous lisons « Il s'en remettait à celui qui juge justement. » L'attrait de cet évangile, c'est que nous sommes sauvés et que nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Nous avons donc fait deux découvertes importantes. D'abord, Jésus est le Seigneur vivant, avec qui nous pouvons être un. Et par lui, un avec le Père et avec les autres chrétiens. Ensuite, nous pouvons suivre Jésus, marcher dans ses traces, c'est possible. Les deux points sont la conséquence de notre orientation sur Jésus. Et c'est formidable de mettre en pratique ces deux points. Et si ces choses sont devenues réalité dans votre vie, vous pouvez être plus que satisfait, c'est le plein évangile. Mais, chers frères et sœurs, il y a plus encore. Dans Jean chapitre 17, verset 22, nous apprenons qu'il y a une dimension que beaucoup n'ont pas encore découverte. Je veux parler de la promesse que Jésus donne dans sa prière sacerdotale. Je parle de la gloire que Jésus a reçue et qu'il nous donne. C'est un précieux secret que de recevoir la gloire de Jésus. Et je suis convaincue que cette promesse vaut aussi pour nous. Jésus ne priait pas seulement pour ses disciples d'alors, mais pour tous ses disciples à travers les siècles. Jésus veut nous donner la gloire du Père, qui n'est pas une auréole, mais qui est une force de vie. Et je vous le demande maintenant, quel rôle la gloire de Jésus joue-t-elle dans votre vie? L'avez-vous seulement reçue? Et si oui, en vivez-vous? Ou bien, pensez-vous que cette formidable promesse de Jésus ne vaut pas pour vous? Nous allons consulter la parole de Dieu afin d'en avoir la certitude. Lisons Romains chapitre 8, versets 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Dans cette dernière phrase, nous voyons que nous partagerons sa gloire. Chantez-vous aussi, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Et nous pensons bien sûr à Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu glorifié. Mais dans la parole susmentionnée, il semble que Jésus nous dit « Je ne veux pas être le seul glorifié. Je veux partager cette glorification avec vous. » Nous sommes co-héritiers du Christ. Quelle grâce formidable! Quel privilège! Comme il nous aime. Jésus est glorifié. Amen. Mais qu'en est-il de votre glorification? Avez-vous tendu les bras vers ce don merveilleux? Peut-être pensez-vous que ce serait un peu orgueilleux de notre part. Mais la Bible dit très clairement dans le verset 17, « Glorifié avec lui ». Donc, nous partageons sa gloire. Ce n'est pas la nôtre. Nous nous orientons sur Jésus et nous recevons de lui. Qu'entend-on exactement par le mot gloire? On ne peut pas le décrire avec précision. La gloire n'est pas contenue dans une formule. Je pense que la gloire de Dieu, celle qu'il veut nous donner, est si grande, si prodigieuse, que l'on ne peut pas la décrire avec nos mots. Le mot « gloire » en grec veut dire « auréole divine ». Mais que représente cette définition? Pour moi, l'auréole divine, c'est ce que mon cœur désire. C'est ce qui rend ma vie riche. C'est le privilège de pouvoir confesser que dans toutes les épreuves, dans toutes les déceptions, il y a aussi une lumière divine dans ma vie. Et cette lumière ne s'éteindra pas. Louons le Seigneur pour cela. Je ne peux donc pas décrire la gloire de Dieu. C'est l'ambiance du royaume de Dieu. Et je désire que cette lumière devienne de plus en plus forte dans ma vie, malgré tout ce qui peut arriver. Comment bien comprendre le fait d'avoir part à la gloire de Jésus-Christ et comment la recevoir? Dans Romains, chapitre 8, verset 14, Paul dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et au verset 17, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » La gloire de Dieu a donc tout à voir avec le fait d'être enfant, d'être fils de Dieu, et le fait d'hériter de Dieu. Dans le verset 15, il dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Je vous pose une question. Servez-vous Dieu comme un esclave ou comme un fils? Votre attitude spirituelle est très importante quand il s'agit de recevoir cette gloire de Dieu. Il y a beaucoup d'esclavage dans le monde, et surtout beaucoup d'esclavage spirituel. Et bien précisément, dans nos temps modernes, les humains de notre génération sont esclaves des idoles. Et ces idoles qui veulent être servies, ce sont la possession, le pouvoir, l'argent, la tradition, la religion, l'occultisme dans toutes ses formes, la recherche de plaisir, l'amusement, l'image de soi, et d'autres choses encore. Dans ce monde, il y a un esclavage spirituel énorme. La Bible parle d'esclavage au péché, esclavage aux choses de ce monde. Et Jacques dit même dans sa lettre « L'amour du monde est inimitié contre Dieu ». Il y a une sorte d'esclavage qui est le fait d'être esclave de loi, esclave d'un système religieux. Et c'est ce dont parle Paul quand il parle de la religion juive, celle dont il est issu lui-même. Les Juifs s'occupaient constamment de commandements, d'interdictions et de sacrifices dans le but de servir Dieu et dans l'espoir de recevoir peut-être ainsi une part de la gloire de Dieu. Paul connaît très bien cette forme de zèle pour Dieu. Il le connaît par expérience et il sait aussi ce qui en résulte. C'est pourquoi il sait que dans un esprit de servitude, on ne peut pas recevoir la gloire de Dieu. L'esclavage, cela conduit à la crainte. Quand on est esclave d'un maître sévère, on doit servir ce maître, jour après jour, sans être payé, et sans possibilité de fuir. L'attitude intérieure d'un tel esclave, c'est la crainte. Il est également possible de servir le Seigneur par crainte des conséquences qui arriveraient si on ne le servait pas. Être esclave est une existence terrible. C'est une existence dans une attitude de peur. Peur de n'en faire pas assez pour le Maître. Chers frères et sœurs, reconnaissez-vous cette attitude? Si vous pensez que vous n'en faites pas assez pour Dieu, malgré vos efforts, dans quel esprit servez-vous Dieu alors? Paul répète, « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Beaucoup de personnes viennent d'un système religieux de crainte. Et aujourd'hui encore, Paul nous dit, faites attention de ne pas retomber dans ce système de crainte, car ce faisant, vous ne recevrez jamais la gloire de Dieu. D'ailleurs, comme Dieu doit être triste quand il voit que ses enfants ont peur de lui. Si vous-même vous avez des enfants, supposez que vous découvrez qu'ils ont peur de vous. Ne seriez-vous pas très triste de voir que vos enfants ne vous obéissent que par peur. Notre façon de servir Dieu ne peut pas comporter de crainte. La crainte ne sied pas au royaume de Dieu. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 13, nous lisons « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Le pouvoir des ténèbres, c'est le pouvoir de la crainte. Dans l'amour, il n'y a pas de crainte. Et seul l'amour régit le climat du royaume de Dieu. Ce royaume ne mélange pas l'amour et la crainte. Jean dit dans sa première épître au chapitre 4, verset 18 « Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » Alors, si nous voulons être parfaits dans l'amour et avoir part à la gloire de Dieu, alors nous devons rejeter l'esprit d'esclavage. Dans la dernière partie de mon message, je veux vous montrer de quelle manière nous pouvons bien recevoir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit m'a inspiré de parler de la parabole du Fils prodigue, dans Luc 15, versets 11 à 32. Cette parabole nous montre ce qu'est la gloire et comment la recevoir. La plupart d'entre nous connaissent bien cette histoire du Fils qui, après avoir demandé sa part d'héritage, quitte son père. Bien que ce jeune fils agisse mal, il sait ce qu'être héritier veut dire, car il réclame la part qui lui revient. Il sait qu'une partie des biens de son père lui revient, même s'il n'a rien fait pour cela. Il sait « Je suis fils, donc héritier ». Mais il ne comprend pas bien ce qu'est être fils, parce qu'il quitte son père. Or, le lien le plus fort que peuvent avoir un père et son fils, c'est celui d'être unis et d'être ensemble. Jésus nous dit que lui et son père sont un. Voyez Jean, chapitre 10, verset 30. Le fils prodigue échange la compagnie de son père contre les possessions de son père. Il n'était pas seulement perdu lorsqu'il n'avait plus d'argent, mais il était déjà perdu lorsqu'il quitta délibérément son père. Ceci nous donne à penser. Sommes-nous plus intéressés par les biens de notre père que par sa présence? Et c'est ici que réside le secret de la gloire du Père. Nous connaissons la suite de l'histoire. Le fils dépense toute sa fortune, car il a échangé les biens de son père contre de l'argent. Ici aussi, il y a une leçon pour nous. Si nous échangeons notre communion quotidienne avec Dieu, si nous l'échangeons contre des biens terrestres, nous perdrons finalement la richesse spirituelle de notre Père. Le fils prodigue perd tout ce qu'il a, et il doit finalement faire paître les porcs. Il est écrit qu'il désirait se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Luc 15, verset 16. Enfin, le fils prodigue se rend compte de sa condition misérable, et il se dit « J'irai vers mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes employés. » Il est clair que ce fils ne se fait plus d'illusions. Mais on voit aussi qu'il n'a pas peur de son père. Il ne dit pas « Mon père va me punir. Il va me jeter dans un cachot. Et je devrais d'abord faire pénitence pour mes mauvaises actions. Et peut-être qu'après je serai employé. » Non, le fils sait que son Père est juste. Et c'est pourquoi il n'a pas peur de lui. Il croit que son Père lui donnera ce qu'il lui demande, c'est-à-dire la vie incertaine d'un employé. Mais il n'avait jamais escompté que son Père allait le glorifier, car c'est exactement ce qui est arrivé. Le retour du fils prodigue et ce qui se passa ensuite, c'est l'image de ce que Dieu veut faire pour nous. Le Père lui-même est plus important que les possessions du Père. Dans la parabole, le Père vit au loin son fils et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou. Comme c'est émouvant, n'est-ce pas? Et Dieu fait la même chose avec nous. Dans la Bible, Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Il est le Tout-Puissant assis sur son trône. Mais ici, il est le Père aimant qui court vers son enfant. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, on reproche aux chrétiens d'Éphèse d'avoir abandonné leur premier amour. Et nous pouvons tous nous reconnaître dans cette situation. Notre premier amour pour Dieu faiblit. Il s'use, parce que les soucis du monde ou les déceptions l'étouffent. Et nous pensons souvent que si Dieu est déçu de nous, son amour pour nous va faiblir, ou même qu'il va perdre son premier amour pour nous. Mais cette parabole montre que l'amour de Dieu n'est pas sujet à l'usure. Le Père qui court vers son fils tombé l'aime toujours de ce premier amour, malgré tout ce qui est arrivé. Louons le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous pouvons dire chaque jour, Dieu m'aime intensément, continuellement et toujours avec son premier amour. Et ainsi, nous venons dans la première phase de glorification, phase que nous traversons tous. Dans la parabole, nous lisons que c'est le Père qui enlève la distance qui s'est mise entre lui et son Fils. Et d'une façon tellement intime, il se penche vers lui et l'embrasse. C'est une manifestation d'amour, de chaleur et d'acceptation totale. C'est ce qu'on fait avec son fils, pas avec son serviteur. Connaissez-vous cette expérience de gloire? C'est être très près de Dieu, c'est sentir son étreinte, jouir de son amour. Et ceci n'est qu'une première phase. Comment le changement s'est-il opéré? Comment le Fils perdu a-t-il reçu la gloire du Père? Qui a pris l'initiative? Eh bien, cela a commencé avec la conversion du Fils. Le Père voulait déjà pardonner depuis le début, et chaque jour, il scrutait l'horizon. Mais le Fils devait faire le choix de retourner vers son Père. Comme il est dit au verset 18, « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement énoncé un vœu pieux, non, il s'est mis en action et il est allé vers son Père. Louons le Seigneur. Et vous, vous êtes-vous aussi levé spirituellement parlant et êtes-vous effectivement allé vers votre Père? La deuxième phase dans le processus de glorification, c'est que Dieu va faire quelque chose à votre état. Voyons ce que le Père fait dans la parabole. Il ne fait aucun reproche à son fils. Au contraire, il appelle ses domestiques et il leur dit « Allez vite chercher la plus belle robe ». Et très peu de temps après, le look du fils perdu a complètement changé. Du pauvre air, mendiant, honteux, habillé de haillons, il est devenu maintenant un fils riche, magnifiquement vêtu et se tenant debout. La signification spirituelle est évidente. La belle tunique C'est l'image du manteau de la justice dont parle Ésaïe, chapitre 61, verset 10. C'est la robe blanche que nous recevons quand nous sommes totalement purifiés dans le sang de Christ. La robe, c'est l'image du pardon de nos péchés. La dette du péché est enlevée et nous sommes justifiés par sa grâce. Chers frères et sœurs, avez-vous passé cette phase-là dans votre vie? Avez-vous fait ce choix et avez-vous reçu sa grâce? Si oui, votre état spirituel est changé. Louez le Seigneur. Mais si malgré ce beau manteau, vous avez encore cette attitude spirituelle d'esclave, alors avez-vous vraiment changé? Pourtant, vous pouvez marcher la tête haute et porter la tunique qui sied au Fils. Avant sa réhabilitation, le Fils confesse sa faute, et c'est indispensable. Il dit « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne vaux plus d'être appelé ton Fils. » Sans humiliation, il n'y a pas de glorification. Mais ce n'est pas le Fils qui glorifie. C'est la volonté du Père qui détermine le nouveau nom qu'il donne à son Fils. Lisez Apocalypse 2, verset 17 à ce sujet. Sans doute, vous dites la prière que Jésus nous a apprise. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, cela vaut aussi pour le nom que Dieu veut vous donner. Sa volonté peut-elle aussi s'exprimer là? Peut-être vous dites-vous, j'en ai entendu assez maintenant. Être dans la présence du Père et être revêtu du manteau de la justice, c'est assez. Mais ne pensez pas cela. Dieu veut vous offrir encore plus. Après la tunique de la justice, le Fils reçoit un anneau. C'est la troisième étape dans le processus de glorification. Il y a une grande signification dans cette remise d'anneau. L'anneau était en même temps un sceau. Et c'était l'instrument dont le Père se servait pour revêtir de son autorité les documents importants. Comme, par exemple, les écrits importants qu'il envoyait à quelqu'un étaient revêtus de cire dans laquelle il imprimait son sceau. Ainsi, le destinataire pouvait reconnaître qui était l'auteur de la lettre. Donc, le fils perdu reçoit maintenant un signe d'autorité. Remarquez qu'il ne doit pas d'abord faire une période d'essai pour prouver sa bonne foi. Non. L'anneau fait partie de l'état de fils. Seuls les fils le reçoivent, et ils peuvent ainsi parler au nom de leur père. Et ceci n'est pas seulement un langage imagé pour une histoire antique. Non, cela nous concerne aujourd'hui. Partager la gloire du Père avec Jésus, c'est aussi partager son autorité. Jésus nous donne sa gloire, donc aussi son autorité. Dans Marc, chapitre 16, verset 17, il est écrit « En mon nom, ils jetteront dehors les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades. » La parole que vous prononcez au nom de Jésus aura de l'autorité et elle s'exécutera, parce que vous parlerez à partir de la gloire du Père. Cet anneau spirituel confirme l'état de fils. Chers frères et sœurs, vous ne recevez pas cet anneau pour la parure, pas pour faire joli, mais pour l'utiliser. Mettez-vous ceci en pratique. La quatrième phase, c'est celle des chaussures. Le fils reçoit des sandales aux pieds. Les sandales sont l'image de la liberté d'aller et de venir où il veut, dans la maison du Père. Cela me fait penser au psaume 100, verset 4. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, Les journaliers vont et viennent dans la ferme et dans les étables. Mais les fils vont et viennent en plus dans la maison. Et c'est aussi votre héritage. Vous ne recevez pas seulement un petit local pour y séjourner, mais vous pouvez dire avec le prophète Habacuc, « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les hauteurs. » Dieu vous place dans l'espace de son royaume, c'est-à-dire les régions célestes, et vous habitez dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et quand le Fils est complètement restauré, s'ensuit la dernière phase de la glorification, c'est-à-dire le banquet. Le banquet où on a tué le veau gras, c'est le banquet le plus important. Au cours de l'année, il y a assez bien de fêtes, mais c'est seulement pour la plus grande que l'on tue le veau gras. Le Père exprime ici sa joie la plus profonde, qui n'est pas la fête du sacrifice, ni la fête de la moisson, mais la fête du retour du Fils. Le Père résume la raison de la fête dans ces mots. « Mon Fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Envers le Fils aîné, qui ne peut pas se réjouir du rétablissement de son frère, le Père dit son désir le plus intime. Voyez le verset 32. Il faut festoyer et se réjouir. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons beaucoup de représentations de notre Dieu. Le Dieu qui cherche des adorateurs. Le Dieu qui règne. Le Dieu qui rend justice, etc. Et toutes ces images sont dans la Bible et elles sont vraies. Mais toutes ces choses sont nécessaires à la réalisation du vœu le plus profond de Dieu, c'est-à-dire festoyer avec ses fils et avec ses filles. C'est ce que Dieu veut le plus et c'est ce vers quoi il aspire, être ensemble avec nous. Et le Père indique dans quel climat il faut célébrer la fête. Soyons joyeux. Nous découvrons que la culture du royaume de Dieu, c'est la culture de la joie, de la gaieté. Le psalmiste le chante ainsi. Il y a abondance de joie devant ta face, dit-il au psaume 16, verset 11. Peut-être penserez-vous, oui, mais il y a aussi la souffrance, et c'est tout à fait vrai. Nous, chrétiens, nous devrons souffrir dans notre imitation de Jésus. Nous n'entrerons dans le royaume que par le combat et l'oppression. Nous le lisons aussi dans Romains 8, verset 17. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. La souffrance n'est pas le but. Ce que Dieu a de plus cher pour nous, c'est l'intimité, c'est être joyeux, c'est être ensemble avec sa famille. Je vais conclure par un dernier regard sur cette parabole du fils prodigue. Je m'imagine que, après la fête, lorsque tous les invités sont partis, il fait calme. Les seuls qui restent, ce sont le père et son fils retrouvés. Ils sont assis l'un près de l'autre, silencieux. Et tout à coup, le fils repense à tout le mal qu'il a fait en quittant son père et en menant une vie de débauche. Et il réalise qu'il n'a jamais rien fait d'important pour son père. Il n'a rien fait qui mérite cet accueil. Et il murmure, « Père, pourquoi cette réhabilitation? Pourquoi cet amour? Pourquoi cette fête ?» Le Père sourit et lui répond, « Mais parce que c'est toi, mon fils. » Enfin, je vous demande, quelle est votre attitude envers Dieu ? quelle est votre relation avec le Père? J'ai découvert que beaucoup de chrétiens ont l'attitude d'un journalier et pas celle d'un fils. Si vous vous en contentez, vous manquerez de beaucoup. On n'embrasse pas les journaliers et ils ne reçoivent pas de tunique ni d'anneau. On ne fait pas de festin pour un journalier, mais pour un fils bien. Chers frères et sœurs, Dieu ne vous a pas donné un esprit de servitude pour craindre à nouveau. Mais il vous a donné l'esprit de filiation, par lequel vous pouvez crier « Abba, Papa, Père ». Prions, grand Dieu, notre Père. Vous voyez où nous nous trouvons et vous savez ce qui se passe dans nos cœurs maintenant. Vous connaissez notre vie. Vous connaissez nos circonstances. Vous connaissez notre combat. Et vous savez comment nous nous sentons intérieurement. Mais, Père, vous connaissez aussi notre espérance et notre désir de gloire. Seigneur, nous voulons changer. Révélez-vous votre gloire en l'honneur de votre Saint-Nom. Amen.